Yves Decamps, bonjour Yves.
Bonjour.
Rien à espérer des annonces d'Emmanuel Macron pour la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen. Aucune revendication des Gilets jaunes ne sera satisfaite par le chef de l'État, dont on attend dans la semaine les conclusions qu'il aura tirées du grand débat. Il ne changera pas de direction, assure d'ores et déjà Marine Le Pen. Ne pas sortir de l'Europe, mais sortir des actuels traités européens, c'est le credo des gauches radicales européennes réunies à Stockholm pour le 6e sommet du plan B. Où en est la SNCF un an après la réforme engagé par le gouvernement et malgré une grève historique de 2 jours sur 5 pendant 3 mois, comment l'entreprise publique se prépare-t-elle à la concurrence? C'est le droit de suite de ce journal. Un journal dans lequel nous reviendrons sur le nouveau record de France du marathon féminin établi ce matin à Paris par Clémence Calvin. Un marathon de Paris dont notre reporter courageuse Cécilia Arbona, partie peu après 10h, n'est pas encore prête de voir la fin. Elle nous racontera sa course, en tout cas elle essaiera. Et puis nous prendrons des nouvelles de la reine des classiques Paris-Roubaix dont les coureurs devraient approcher dans un instant du premier secteur pavé. En attendant Macron, à quelques jours des annonces très attendues du président de la République, plus de 31 000 gilets jaunes ont à nouveau manifesté dans les rues de France hier. Selon un décompte du ministère, c'est un peu plus que la semaine dernière. Les gilets jaunes eux-mêmes évoquent un petit regain de mobilisation en annonçant une journée exceptionnelle samedi prochain, le 20 avril, car pour eux, rien ne sortira du grand débat blabla lancé par le chef de l'État. Et c'est ce que dit aussi Marine Le Pen dans le Paris dimanche, que les questions ayant été contraintes, aucune revendication ne pourra vraiment émerger, ce qu'elle a répété tout à l'heure sur LCI.
En réalité, je n'en attends rien pour une raison simple, c'est que le président de la République a d'ores et déjà annoncé qu'il ne changerait pas de direction. Et donc je m'attends à quelques amodiations minimes, anecdotiques, à la marge, qu'il présentera bien sûr à grands coups de trompette et de flonflon pour tenter de faire croire qu'il s'agit là d'une révolution. Comment ils appellent ça? Des annonces disruptive, c'est très macronien comme sémantique. Enfin, il n'en demeure pas moins que ça n'est, encore une fois, que la remise en cause qu'une partie minime des décisions qui ont été prises par lui et sur lesquelles il ne reviendra pas. Je pense évidemment à la suppression de l'ISF, je pense bien sûr à l'augmentation de la CSG, je pense aux augmentations d'électricité qui vont intervenir au mois de juin, alors même que fondamentalement le problème du pouvoir d'achat et notamment de ces dépenses contraintes des Français étaient posés depuis des semaines par les Gilets jaunes.
À propos des Gilets jaunes, le dernier bilan de la préfecture de Haute-Garonne après les affrontements d'hier à Toulouse fait état de 15 blessés en urgence relative, dont un policier. 45 personnes ont été interpellées, certaines pour avoir eu le visage dissimulé, comme la nouvelle loi anti-casseurs le prévoit. La plupart de ces personnes ont été placées en garde à vue. Sur le fond et de leur côté, les signataires du pacte social et écologique présenté début mars ont repris la plume dans le JDD. Parmi eux, Nicolas Hulot et Laurent Berger qui appellent le chef de l'État à un sursaut politique pour que ce quinquennat ne soit pas perdu pour la transition écologique et sociale. Pour les 16 personnalités signataires, la baisse des dépenses publiques et des impôts ne doit pas être le totem d'un projet politique, ne peut pas être non plus la principale leçon de 5 mois d'occupation des ronds-points, de 5 mois de marche pour le climat et de 4 mois de grands débats. Et pendant ce temps, les gauches radicales européennes débattent en Suède d'un plan B pour l'Union, B ne voulant pas dire Brexit en l'espèce, au contraire, pour les partis qui s'opposent aux politiques libérales, ce n'est pas la sortie de l'Europe qu'il faut défendre, mais la sortie des actuels traités, parmi eux bien entendu les Français de la France Insoumise à Stockholm, Laurence Perron.
Bruyante, au Parlement français, la France insoumise à Stockholm fait plutôt profil humble. Numériquement, comparé à la plupart des parlements voisins, c'est l'une des plus petites forces. C'est dû pour beaucoup au mode de scrutin, corrige la députée insoumise Danielle Obono, qui voit dans ces rencontres l'espoir d'un vrai plan B européen.
On a nos camarades portugais qui sont aussi dans une dynamique de soutien à un gouvernement au pouvoir, les Espagnols qui se posent la question. Vous avez les Britanniques, le leader est quand même considéré comme un potentiel Premier ministre, donc on est dans une situation où plus que jamais on a besoin d'un plan B et ça montre que loin d'être une stratégie isolationniste ou nationaliste, c'est une stratégie internationaliste comme vous le voyez.
Un plan B qui passe par une remise en cause des traités, en aucun cas un exit. L'exemple anglais a vacciné tout le monde. À la tribune, tout comme dans les allées du sommet, Julie Waltz, eurodéputée du Labour, le parti de Jeremy Corbyn, défend fermement le maintien dans l'Union. Je crois, dit-elle, que nous devons nous battre pour la liberté liberté de circulation, pour les travailleurs, pour les réfugiés. Le Brexit ne produit pas cela. Le Brexit, c'est une manière de dire, si vous ne ressemblez pas à tout le monde, si vous n'êtes pas un mâle blanc, retournez chez vous. Et c'est peu dire que la gauche anglaise n'a pas du tout envie de se retrouver seule chez elle.
Laurence Perron à Stockholm. La grève à la PHP, assistance publique hôpitaux de Paris, les personnels des urgences demandent une réorganisation totale des services de façon à mieux assurer leur sécurité face aux agressions de plus en plus fréquentes. Ils demandent aussi une prime de 300 euros par mois, sachant qu'une grève aux urgences est essentiellement symbolique, bien sûr, puisque l'accueil des patients se fait tout à fait normalement. C'était il y a un an, à propos de grève, une grève inédite à la SNCF, doublement historique dans sa durée, 3 mois, et sa forme, 2 jours d'arrêt de travail tous les 3 jours. Les syndicats unanimes s'opposaient à la réforme voulue par le gouvernement pour préparer l'entreprise au choc annoncé de la concurrence. Une réforme qui sera définitivement adoptée par le Parlement à la mi-juin et qui prévoit notamment le changement de statut de la SNCF en une société anonyme à capitaux publics et la disparition du statut de cheminot pour les nouvelles embauches, statut maintenu pour les agents déjà sous contrat. Réforme dont la mise en œuvre prendra du temps. Alors, où en est-on ? Un an après, c'est le droit de suite de ce journal. Parole de syndicat avec Maxime Deps.
Quand un arbre est tordu au départ, dur de le remettre d'équerre. Voilà comment Didier Aubert de la CFDT Cheminots parle de la réforme ferroviaire quasiment un an après.
On est vraiment à la ramasse avec un patron sur la sortie alors qu'il y a tout à construire en interne.
Un an après la grève historique des cheminots, Guillaume Pépi effectue en effet son dernier mandat au sein d'une SNCF qu'il doit encore transformer en société anonyme, en SA. Passage obligé pour que l'entreprise ne soit pas considérée comme privilégiée face aux opérateurs privés, avec la part d'inconnu que cela comporte pour Sudrail et son représentant Bruno Poncet.
On voit une espèce de jeu de monopoly qui est en train de se mettre en place et en fin de compte c'est un grand flou et les cheminots sont inquiets.
Autre sujet, le statut qui doit être supprimé pour les nouveaux embauchés au 1er janvier.
Le nouveau pacte social pour les nouveaux embauchés, on n'a pas écrit la première ligne dessus.
Pas une ligne car ça coince. SNCF, syndicats, opérateurs privés sont en pourparlers depuis des mois pour fixer les conditions notamment de rémunération des futurs employés du rail. Mais pour l'heure, tout semble un peu à l'arrêt.
Aujourd'hui, on se retrouve avec des négociations inexistantes pour arriver à un résultat où ça sera le gouvernement qui statuera par décret.
Ce gouvernement qui a un peu plus braqué les syndicats en janvier en lançant le processus d'appel d'offres de 2 lignes intercités, Nantes-Lyon et Nantes-Bordeaux. Réponse, c'est un peu comme partir sans avoir accroché les wagons.
Le gouvernement a voulu donner un signe aux régions en disant « Voyez, moi le premier, je siffle le début du match de l'ouverture à la concurrence à travers les intercités ». Alors que les 3/4 des décrets qui permettent cette ouverture à concurrence, issus de la loi, ne sont pas encore pris. Donc ça fait pas sérieux.
Peut-être reconnaissent aujourd'hui certains représentants syndicaux qu'il serait temps d'y retourner en grève, histoire de montrer au gouvernement qu'on ne se laissera pas faire.
Invité de ce journal, le député La République En Marche, Jean-Baptiste Djebbari, rapporteur du texte à l'Assemblée, chargé de mission sur l'application de la loi. Bonjour.
Oui, bonjour à vous.
Tout reste à faire en interne alors, comme le disent les syndicats, rien n'a vraiment changé depuis un an ?
Non, bah d'abord, c'est vrai que notre mission a consisté à regarder un an plus tard ce qui avait été fait et pas fait, tant sur l'ouverture à la concurrence que sur la gouvernance de la SNCF, que sur le cadre social. Et on a aussi regardé un petit peu le sujet des petites lignes qui, comme vous le savez, est un sujet important et très politique. Pour reprendre un peu ce que disaient les syndicalistes que je connais très bien, la réforme, il n'y a pas eu d'adhésion du corps cheminot à la réforme. Et en même temps, il y a un très fort attachement des cheminots à la SNCF. Donc, il y a à la fois beaucoup d'inquiétude et beaucoup de fierté. Et ça met un petit peu de temps, effectivement, tout ça à se transformer en action positive. Vous savez qu'il y a deux pactes aujourd'hui qui sont discutés. Il y a un pacte interne à la SNCF avec des enjeux de transformation considérables. Guillaume Pépi avait annoncé que 10% des emplois d'ici 2026 disparaîtraient du fait de la digitalisation et que d'autres seraient créés. C'est pour vous dire quand même l'évolution interne qui est à l'œuvre actuellement. Et puis, il y a la convention collective de branche qui est, contrairement à ce que disent les syndicats dans votre reportage, en cours de négociation. C'est sûr que c'est plus lent peut-être que prévu et que l'ensemble des discussions doivent aboutir au 1er janvier 2020, sans quoi le gouvernement se réserve le droit d'introduire par décret un certain nombre de mesures visant à avoir une convention dite de haut niveau pour protéger les salariés du rail et pour permettre à la concurrence de s'exercer de façon saine.
Alors justement, ce que disent aussi les syndicats, c'est que la direction de la SNCF laisserait pourrir la situation pour laisser l'État trancher.
Non, je crois que vous savez, je suis à la fois la direction et les syndicalistes, et moi je comprends les craintes de part et d'autre, mais si on écoute les deux positions, vous avez la direction de la SNCF ou les partenaires, on va dire les entreprises ferroviaires qui vous disent les syndicats essaient de transférer le statut de la SNCF dans la branche, Et de l'autre côté, vous avez les syndicalistes qui vous disent on essaye en fait, avec la convention collective, de vider le statut de sa substance. Je pense qu'en vérité, il faut continuer à travailler pour arriver à une forme d'équilibre, à la fois adapter les conditions de travail au sein du groupe public ferroviaire, de manière à ce qu'elles soient adaptées, avec plus de polyvalence, adaptées à l'environnement concurrentiel. Et puis de l'autre côté, effectivement, il faut se prémunir d'un cadre social qui serait moins disant et qui verrait s'opérer, par exemple, ce qui existait dans l'aérien, c'est-à-dire qu'on ait une trop faible protection des travailleurs du rail.
Alors juste...
c'est à ça qu'on veille actuellement.
Alors justement, quid du transfert des personnels? Par exemple, dans le cas où la SNCF perd un marché, que deviendront les salariés? Est-ce qu'ils passeront au privé obligatoirement?
Non, vous savez qu'il y a des... D'abord, il y a des... Il y a un peu le principe même du volontariat. On va chercher au maximum à reclasser les gens qui ne veulent pas faire transférer et on va faire appel au volontariat. Et puis vous savez qu'il y a des garanties qui ont été attachées dans la loi, et notamment que la personne qui est transférée garde sa protection sociale, son régime de retraite, garde la garantie de l'emploi, et c'est très important. Ça a été très important pour quelque part sécuriser le parcours des cheminots qui ont été embauchés au statut et qui quelque part ont passé un contrat moral à la SNCF à ce moment-là. Donc il y a un certain nombre de garanties qui ont été posées dans la loi et qui sont aujourd'hui discutées dans leur modalité plus fine au sein de la convention collective. Donc il y a vraiment des garanties qui sont fortes, et le principe qu'on essaie de mettre en œuvre, c'est que les salariés qui demain perdraient un marché à la SNCF soient transférés dans les meilleures conditions possibles. Et je note quand même, pour avoir regardé ce qui s'est passé à la Deutsche Bahn il y a 20 ans qui s'est ouvert à la concurrence, donc l'opérateur historique allemand, vous savez que l'opérateur est resté très très fort sur la grande vitesse, il a encore 94% des marchés grande vitesse, il a encore les trois quarts des marchés sur le TER, alors même que le ferroviaire a beaucoup cru. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que l'ouverture à la concurrence pour le ferroviaire, c'est vraiment une chance pour l'usager d'avoir du meilleur service pour moins cher, et c'est aussi une chance pour les cheminots parce que le ferroviaire est un mode qui est beaucoup plus plébiscité en Allemagne par exemple qu'il y a 20 ans.
Alors à suivre et donc à vérifier, surtout dans les mois qui viennent. Merci beaucoup Jean-Baptiste Djebari, chargé de mission sur l'application de la réforme SNCF. Merci beaucoup. En bref, à l'étranger, en Libye, plus de 120 morts, 600 blessés, bilan provisoire établi par l'Organisation mondiale de la santé, 10 jours après l'offensive du maréchal Haftar contre Tripoli. L'OMS qui dénonce les attaques répétées contre le personnel soignant et les ambulances. Au Soudan, des milliers de manifestants toujours rassemblés ce matin devant le quartier général de l'armée à Khartoum, après les engagements du général Bourhan, le nouvel homme fort du pays qui a promis le changement. Les représentants de l'opposition demandent la formation d'un gouvernement exclusivement civil. Un double sacre des Éthiopiens au marathon de Paris ce matin. Victoire d'Abra Milo chez les hommes en 2h07min5s. Le double tenant du titre, le Kenyan Lonyangata, finit 3e chez les femmes. Victoire de Djelete Burka en 2h22min48s. Excellente performance de la Française Clément Calvin, 4e, et qui a battu le record de France en 2h23.41, largement au-dessus des minima pour les JO de Rio. Clémence Calvin, vice-championne d'Europe, accusée de s'être soustraite à un récent contrôle antidopage et dont la suspension avait été levée juste avant-hier, mais elle a réussi donc à faire abstraction du contexte pour se donner à fond. Elle était même très lucide après ses 42 km et des poussières.
C'était une semaine compliquée, c'est sûr. Après, mes proches ont continué de me préserver et j'ai reçu beaucoup de messages de soutien en amont. Les minorités dissidentes, c'est comme chez les partis politiques, ça reste des minorités. Et à part 3-4 distracteurs, dont un qui s'est étouffé avec sa langue de vipère, du coup j'ai un petit peu rigolé. Il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Dans ma tête, je me répétais sans cesse, j'aime Paris, je t'aime Paris, je t'aime la France. Et le public me le rend bien.
Clémence Calvin au micro de France 3, en précisant que ce record de France peut encore être annulé, l'athlète étant sous le coup d'une procédure disciplinaire. Elle n'aura pas eu la même réussite, évidemment, mais tout autant de courage, bien sûr. Cécilia Arbona, journaliste au service des sports de Radio France, faisait ce matin son tout premier marathon, mais sans entraînement particulier, je crois, ce qui est assez audacieux. Ça va, Cécilia? Dites-nous, où en êtes-vous?
Coucou Yves de Caen. Alors, je suis à proximité de la Foire du Trône dans le bois de Vincennes. Je viens de passer mon 18e kilomètre. Donc, je serai à peu près dans les temps, en tout cas pas disqualifié pour un semi-marathon, je pense. Non, pas pour Rio et ni pour Tokyo. Je risque en tout cas d'être disqualifiée parce que j'ai eu un petit coup au moral là. Je viens de voir trois voitures qui viennent de me doubler avec une Toyota qui était siglée fin de course. Donc ça fait un peu peur. Et puis faut dire que ce bois de Vincennes, il y a un monsieur sur le parcours qui nous a dit « Allez les gars, c'est un peu vos Pyrénées à vous ». Et je suis d'accord parce que c'est comme si on était sur le Tour de France, il y a eu beaucoup de casses. Une voiture, une ambulance est venue chercher un coureur asiatique complètement hagard, les jambes écartées. Je sais pas s'il avait vomi ou s'il allait vomir. En tout cas, il pouvait plus continuer la course. Il attendait les secours sous un abribus. Et puis, j'ai vu une dame devant moi chuter, enlever ses chaussures et me dire « J'arrête, j'ai trop mal aux orteils ». Donc, pour l'instant, j'ai pas de crampes, je n'ai pas de claquage, donc c'est pas mal. Par contre, ouais, mes orteils, j'ose pas ouvrir les chaussettes. J'ai l'impression que ce sont des petites knacks.
Oh là là, quel spectacle. Quel spectacle vous nous offrez. En tout cas, bravo, hein, bravo énormément pour votre
merci.
Courage et pour cette, ce premier marathon. Et puis les JO, bien sûr, c'est Tokyo. J'ai dit Rio, je ne sais pas pourquoi. C'est Tokyo, bien entendu. Sous le soleil et dans le froid également, le départ du Paris-Roubaix a été donné peu après 11h à Compiègne. 257 km à parcourir jusqu'au vélodrome de Roubaix en passant par les fameux pavés, 54 km et demi de pavés au total, une course très ouverte cette année, Fabrice Rigobert, sans véritable favori.
Oui, il y a bien Peter Sagan, Yves, le triple champion du monde, vainqueur l'année passée, mais qui connaît un petit coup de moins bien. Mais se réservait-il pour ce Paris-Roubaix pour réaliser le doublé? Eh bien, on le saura sans doute un petit peu plus tard. Attention aux Belges également, Greg Van Avermaet, ou encore à cette petite pépite, triple champion du monde, Wout Van Aert de cyclocross, 24 ans, qui fait partie des prétendants à la victoire côté français. Arnaud Démare ou encore Adrien Petit peuvent peut-être tirer leur épingle du jeu. Nous sommes maintenant à 166 km de l'arrivée, et ça veut dire que dans 6 km maintenant, nous aurons le premier secteur pavé, celui de Trois-Villes. Ensuite, on va enchaîner avec des secteurs très difficiles, 10 km de pavé en 13 km de course. Ça va faire une très belle sélection et nous avons trois groupes qui sont en train de se détacher. Il n'y a pas eu d'échappée du jour aujourd'hui. On a un groupe de 9 avec les Français Alexis Goujard et Damien Godin, un petit peu plus loin un groupe de 13. Avec des coureurs comme Politz, Tuns, Kung ou encore Matteo Trentin, des spécialistes de ces courses pavées, et le peloton qui n'est pas très loin, une petite quarantaine de secondes. Et évidemment, ce peloton va éclater comme un fruit mûr sur ces premiers secteurs pavés. On assistera à une sélection par l'arrière et les meilleurs resteront devant. Viendront la Trouée d'Arambert, le Carrefour de l'Arbre, Mont-Saint-Pével et le Vélodrome de Roubaix à 17h30. Mais pour l'instant donc, rien n'est encore fait.
Voilà, Fabrice Rigobert à Roubaix arrivé donc prévu vers 17h30. Un petit air de vacances et d'été pour terminer, même s'il fait froid dans une grande partie du pays. C'est partout le début de la saison touristique, à une semaine du week-end de Pâques. En baie de Somme, par exemple, on n'a pas encore sorti les maillots et les serviettes de plage, mais pour le grand air et la nature, rien de telle qu'une balade à la pointe du Hourdel. Regardez la marée monter et apercevoir les phoques, un spectacle pour tous les âges. Et quelle que soit la couleur du ciel, Noémie Philippot.
Moi, je vais aller voir les phoques.
Non, mais Polo, tu peux pas aller dans l'eau. Hein.
Par hasard, c'est comme ça qu'Étienne et Cindy sont arrivés des Ardennes avec leurs enfants, et c'est presque Étienne qui est le plus fasciné par les têtes noires qui émergent entre deux vagues.
C'est assez balèze, ouais. On les imagine plus bibifoques. Et là, on se rend compte que ça ressemble plus à un Rottweiler sans les pattes. Il ne leur manque que le collier à clous.
Paul, le plus petit, a foncé sur le sable pour tester la température de l'eau, un peu intimidé par cette nouveauté.
On voit de la mer et en fait, elle monte. C'est ça le problème. Parce que si elle monte trop, ben après, on sera coincé.
Mais justement, c'est au moment où la mer remonte que les phoques s'activent. Emmitouflée dans son bonnet et son écharpe, Marie-Isabelle n'aurait loupé ça pour rien au monde.
On vient du Crotoy en vélo et on a eu beaucoup de vent et on a un peu froid, mais c'est super beau. Et venir à Pâques, c'est bien parce qu'il n'y a pas trop de monde. Et puis on vient de voir les phoques qui plongeaient et c'est toujours gai. Voilà.
Comme quoi, même avec un air hivernal, la baie de Somme sait séduire.
Voilà, et tout ça dans une ambiance très fraîche. Météo France ne prévoit pas mieux que 10 degrés sous abri cet après-midi au nord de la Loire, mais sous le soleil.